en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Priscille Lafitte.
La peinture de Bernard Buffet, expliquée par Lydia Arambourg. Pourquoi commencer cette émission sur Bernard Buffet avec un extrait de la valse de Maurice Ravel? Parce que le peintre avait réalisé les décors d'une mise en scène de ce poème chorégraphique à l'Opéra Comique en 1970. Bernard Buffet avait également réalisé les décors d'une représentation de Carmen de Georges Bizet pour l'Opéra de Marseille en 1962. On imagine l'adéquation entre cette peinture grinçante, parfois grimaçante, avec l'outrance de l'écriture de Bizet qui perdrait d'un coup de son joyeux excès et revêtirait des couleurs plus sombres, plus graves. Nous entendrons des extraits de Carmen plus tard dans cette émission. Nous allons parler de la vie et des œuvres de Bernard Buffet. Pour cela, nous avons passé une soirée dans la galerie Maurice Garnier, généreusement ouverte pour nous par Maurice Garnier lui-même, qui a consacré sa vie à la peinture de Bernard Buffet. Et pour nous parler de ce peintre, pour rapprocher les œuvres de l'artiste, qui est de plus averti et de plus généreux dans la diffusion du savoir que Lydia Arambourg. Lydia Arambourg, vous êtes correspondant à l'Académie des Beaux-Arts, historienne de l'art, et vous avez écrit récemment un livre sur Bernard Buffet, précisément Bernard Buffet et la Bretagne. Est-ce qu'on peut déjà, ensemble, faire le tour de la vie de Bernard Buffet, de son œuvre? Bernard Buffet, déjà, comment est-ce que vous le situez dans l'histoire de la peinture?
Bernard Buffet est certainement la figure la plus controversée de l'histoire de la peinture française de la deuxième moitié du XXe siècle. Son nom déclenche immédiatement des réactions qui sont d'ordre passionnel. C'est aussi bien de la haine que de l'amour, j'ai envie de dire. Et ces noms ne sont pas trop forts pour désigner une situation dont l'approche est empreinte d'ambiguïté, mais aussi d'une grande évidence. Et cette évidence, c'est que nous sommes en face d'un grand peintre, et d'un peintre, tout simplement, un peintre avec un grand P. L'évidence d'avoir un artiste qui, immédiatement, est en possession d'un métier et d'un univers, bien sûr qu'il va s'attacher à développer tout au long de sa vie, mais cette évidence de la peinture, pour moi, est une chose tout de même assez rare. Il faut savoir que Bernard Buffet, très jeune, a cette vocation qui est rivée au fond de lui. Il dessine et donc il va suivre des cours de dessin dans une école, Place des Vosges. Et puis ce sont les Beaux-Arts, l'atelier du peintre Narbonne. Donc il acquiert un métier. Il maîtrise parfaitement l'écriture graphique. Et puis, on a l'impression que c'est une œuvre presque jaillissante, spontanément, qui émerge. En 1948, il se voit décerner le Grand Prix de la Critique.
Il était très jeune, hein?
Il a 20 ans. Donc ce prix est décerné à un jeune peintre inconnu qui a 20 ans et ça a l'effet vraiment d'une bombe.
Il a quand même fait l'école des beaux-arts avant ça, il ne vient pas de nulle part.
Non, mais on peut pas... Vous savez, l'école des beaux-arts, on est dans un atelier, personne ne vous connaît, c'est un petit groupuscule. Il n'est pas connu des marchands, la critique ne le connaît pas. Et justement, ce prix de la critique est décerné généralement à un artiste qui a déjà une œuvre, puisqu'il va partager ce prix avec le peintre Lorjou, qui est de 20 ans son aîné. Ça situe bien quand même la reconnaissance immédiate que les critiques vont porter à cet artiste. C'est-à-dire qu'ils sont en face d'un peintre qui maîtrise admirablement son métier, mais qui aussi est investi vraiment d'une profondeur, d'un univers qui ne demande qu'à se révéler et qu'à accoucher finalement. Donc Bernard Buffet quitte l'école des Beaux-Arts en 45. En 46, il expose dans un salon qui est le salon des moins de 30 ans. Donc comme son nom l'indique bien, ce sont de jeunes artistes qu'on ne connaît pas, qui ont moins de 30 ans. Et en 1947, c'est vraiment sa première exposition particulière dans une librairie, donc ce n'est même pas une galerie, c'est la librairie des impressions d'art, rue des Écoles. Il est quand même avec un petit catalogue dont le texte est de Pierre Descargues et il se trouve que le soir du vernissage, il y a une grève de transport, personne ne vient à l'exposition, et c'est vraiment le silence visuel. Il y aura quand même quelques critiques qui vont être présents, et un de ces critiques, c'est Raymond Cognat, qui est un homme qui fait autorité en matière de critique d'art, et qui va acheter une œuvre qui s'appelle « La nature morte au poulet », et qui est le premier achat pour le Musée national d'art moderne, qui a été créé 2 ans plus tôt par Jean Cassou. Donc, vous dire qu'il y a une espèce de destin absolument foudroyant qui arrive et qui commence à montrer ce qui va être quelque chose de détonnant. Donc, nous sommes en 47. En 48, c'est le prix de la critique. Et donc, tout va très vite, tout s'accélère très, très vite. Et c'est vrai que cette célébrité insolente, quand on a 20 ans, on vous le pardonne difficilement.
C'est vrai que c'est difficile d'adouber comme ça un peintre aussi jeune et de parier sur l'avenir.
Bernard Buffet va être entouré de personnes qui vont justement déceler. C'est ça que je trouve absolument magnifique, c'est cette espèce de prescience qui va très vite habiter des critiques, des marchands, qui vont vraiment pressentir en Bernard Buffet le grand peintre d'après-guerre. C'est-à-dire que Gruber était le grand espoir de la peinture française juste avant la guerre, il y a cette grande interruption, mais l'école des Beaux-Arts était toujours active, il y avait toujours... rien n'était arrêté, si vous voulez, mais... Il y a tout de même ces artistes qui sont là, qui sont en attente. Très vite, il y a des salons qui reprennent. Et tout arrive d'une façon fulgurante. Et avec Bernard Buffet, c'est tout de même très, 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 très spectaculaire.
Vous parliez à l'instant de la guerre. La guerre a beaucoup marqué son œuvre.
Alors c'est vrai que il faut rappeler un petit peu ce climat qu'il y avait à Paris à la fin de la guerre, toute une génération émergente qui a vécu dans les privations, qui a vécu douloureusement une période d'occupation. Et Bernard Buffet va être complètement imprégné, d'abord parce qu'il est face à lui-même, je crois, face à sa peinture, et que les thèmes vont être des thèmes du quotidien, c'est-à-dire que ce sont des êtres perdus, des êtres faméliques, des personnages qui sont dans la solitude, pas seulement physique, mais une solitude morale. Et donc, il se trouve qu'il y a aussi cette adhérence de cette douleur, on va dire, de l'existentialisme, en quelque sorte, qui trouve une correspondance et une expression avec une écriture qui très vite va devenir la signature de Bernard Buffet. C'est-à-dire que très très rapidement, il est avec une telle maîtrise de l'écriture, de son dessin, que ce dessin aigu, ce dessin qui est maintenant reconnaissable, je crois, parce que c'est avant tout un dessinateur, il est peintre, mais il est profondément dessinateur. Et donc ce dessin aigu, ce dessin qui semble... être comme un scalpel qui dissèque vraiment sur la toile un personnage ou une composition. Ça, c'est la signature de Bernard Buffet. Il en est complètement imprégné. Alors, il va avoir une palette qui, bien sûr, correspond à cette période de pénurie, on va dire, cette période de questionnement, enfin.
Et beaucoup de tableaux sont en noir et blanc. Bernard Buffet décline les gris, les ocres.
C'est une palette avec des ocres, des terres, des gris, des ocres qui sont colorées légèrement de bleu, de vert. Et donc, on est dans quelque chose de, on peut pas dire monochrome, c'est pas ça du tout, mais il y a une sorte de subtilité. Et là, déjà, je pourrais peut-être presque faire un rapprochement avec sa gravure, parce que très vite, il va travailler aussi la gravure et notamment la pointe sèche. Et il y a cette relation du noir et du blanc et de la lumière. Et donc, cette lumière qui va donner ce côté un peu lunaire, on est devant une œuvre qui est profondément intériorisée, qui est très mûrie aussi en même temps. Il y a un grand, grand aboutissement dans tout cela.
Un aboutissement dès le départ, mais qui est clos au fur et à mesure de sa vie. Est-ce que vous diriez que c'est le même univers Buffet qui l'accompagne ? Est-ce qu'il a beaucoup évolué dans sa peinture au fur et à mesure de sa vie, Lydia Arambourg ?
Alors l'évolution, oui, il y en a une, bien sûr, mais c'est une évolution qui est dans une grande unité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette écriture. L'évolution, elle va se faire au niveau de la couleur, parce que forcément, en avançant, Bernard Buffet va avoir une vie qui va tout de même sortir de cette période, encore une fois, extrêmement sombre et très angoissée, parce que c'est vraiment une peinture d'un être qui est angoissé et dont la seule issue possible, ça passe par la peinture. En fait, c'est ça, c'est que c'est la peinture qui peut lui permettre de vivre et de reconduire à chaque fois, chaque jour, d'avoir à nouveau cette respiration qui lui permet de réaliser des compositions donc qui sont extrêmement variées, mais enfin on reste quand même avec ces grandes compositions qui tournent autour donc de l'être humain, de ces natures mortes faméliques, enfin. Et donc la couleur va venir progressivement, elle revient parce que d'abord Bernard Buffet s'ouvre à la vie aussi, donc il y a tout un aspect, je dirais, plus intime, privé, qui fait que lorsqu'il va rencontrer Annabelle, eh bien il va bien évidemment être dans une ouverture au bonheur. Alors on peut peut-être pas parler d'une façon aussi brutale et aussi triviale, malheur, bonheur, mais je crois qu'il y a quand même là une espèce d'ouverture, il y a vraiment un moment de grand bonheur qui s'ouvre à lui, et donc la couleur va progressivement apparaître dans sa peinture. Dans les années 60, cette couleur, elle va se faire de plus en plus évidente et va s'imposer, mais c'est une couleur aussi qui va jouer beaucoup sur la violence, sur l'expressionnisme, parce que c'est pas une peinture qui est innocente. Il y a toujours quelque chose de profondément vécu, de terriblement intériorisé.
Bernard Buffet, avec la rencontre d'Annabelle, reste néanmoins un être seul, solitaire. Et ça se ressent aussi dans sa peinture, où il y a beaucoup de portraits de personnes seules et qui vraiment ont l'air seules, ont l'air solitaires.
Je vais faire une remarque qui est éminemment personnelle, mais je la fais parce que j'en ai beaucoup parlé avec un certain nombre de peintres. Je pense que de toute façon, tout art ne peut se faire que dans la solitude. Et que la peinture, aussi bien la sculpture que la musique, mais nous parlons de Bernard Buffet, la peinture, c'est un art éminemment solitaire. C'est-à-dire que s'il y a cette exigence, et ça a été aussi la grande qualité de Bernard Buffet, c'est cette exigence vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son art. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de tricherie. Quand vous voyez une toile des années 46-47 et que vous voyez une toile qui est peinte 10 ans après et puis encore 10 ans après et qu'on arrive à ses œuvres ultimes sur le thème de la mort, il est évident que c'est un homme qui n'a jamais triché. Il a toujours été plus loin, au plus loin de ce qu'il pouvait demander, pas seulement à son écriture, mais aussi à la matière. Alors ça, justement, l'évolution, elle existe, bien sûr, parce que nous avons au départ une peinture qui est plutôt, je dirais, assez douce dans la mesure où il y a très peu de matière et elle pénètre complètement dans la toile. Et donc, on a presque une sorte de glaçage, alors que tout vient du fond de cette peinture. Et progressivement, cette peinture, elle remonte. C'est-à-dire qu'on va se trouver en face de peintures de Bernard Buffet qui ont une matière, mais il faut regarder vraiment sa peinture, parce que la matière, elle est travaillée comme pouvaient la travailler les abstraits lyriques qui lui sont contemporains. Il y a eu un moment où il y a eu ce questionnement pour ceux qui regardaient vraiment sa peinture, parce que malheureusement, si on l'a tant attaqué, c'est parce que je crois qu'on ne regardait plus sa peinture et que c'était rapidement expédié. Mais il y a de l'épaisseur. Il y a de l'épaisseur comme chez Riopelle. Il y a un travail qui est au couteau. Il y a un travail qui est avec des outils qui sont les outils utilisés par des peintres qui peuvent aussi même utiliser la main. On peut même parler de tubisme. Le tubisme, c'est-à-dire peindre avec le tube, ce que faisait Mathieu, ce que faisaient d'autres artistes, et Pollock et bien d'autres, qui sont des peintres complètement dans l'abstraction, eh bien, Bernard Buffet ose cela. Mais sans du tout s'occuper si ça se fait, si ça ne se fait pas, c'est parce que ça correspond à une nécessité intérieure en tant que créateur qui a besoin d'exprimer par la couleur, par le dessin, et ça ne peut passer que par un moyen qu'il s'invente en quelque sorte. Donc il y a une espèce d'instinct qui lui fait avoir un geste qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement. Donc au départ, c'est effectivement peint, on a des pinceaux, et puis c'est dans la grande tradition de la peinture. Après, on est toujours dans la grande tradition de la peinture, mais ça passe par d'autres outils, par d'autres moyens, parce qu'il y a une bagarre, parce qu'il y a un corps à corps avec la peinture, et qu'il ne peut pas rester à la même place où il était quand il a démarré. Donc évidemment, il y a une progression. La progression, c'est cette conquête de la peinture qui doit aller toujours plus loin pour être au plus près de ce qu'il veut lui exprimer et de ce qu'il ressent. Donc, c'est un grand humaniste aussi. Donc, sa peinture, elle passe aussi par la figure humaine. Et ça, je voudrais aussi le préciser, c'est que toute sa vie, Bernard Buffet a peint l'être humain. Et que ce soit dans des grandes compositions symboliques ou métaphoriques, ou en s'inspirant de grands modèles du passé, parce que c'est un homme qui connaît admirablement la peinture, qui l'a étudiée et qui continue à l'étudier, à la questionner. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce renvoi. Je pense que, là je m'avance peut-être un peu, mais il était tellement pénétré, avec une telle connaissance de la peinture des grands maîtres, mais que ce soit Rembrandt, dont il a fait une magistrale interprétation de la leçon d'anatomie, et qui est une œuvre absolument mais bouleversante de présence, qui est une œuvre qui va tellement loin dans ses personnages qu'il ne copie pas, mais qu'il revit lui-même, c'est-à-dire un corps qui est ouvert, et c'est le grand mystère du corps humain. Qu'est-ce qu'il y a et que cache ce corps humain et que cache la peinture? Et ça aussi, je trouve que c'est peut-être ça, le miracle de Bernard Buffet, c'est de nous apprendre à regarder autrement et à percevoir autrement aussi la nature humaine.
Pour finir ce tour d'horizon de la vie et de l'œuvre de Bernard Buffet, Lydia Rambourg, comment est-ce qu'on peut situer Bernard Buffet, qui est unique un peu dans cet après-guerre, en tant que peintre réaliste? Il se réclamait lui-même du Baron Gros, de Géricault, de Delacroix. Il n'a pas eu vraiment de disciples. Est-ce que c'est un peu un élément libre, en fait, dans la peinture de la seconde moitié du XXe siècle?
Je crois que Bernard Buffet est une grande figure de l'humanisme. C'est un homme, nous l'avons dit, solitaire, mais sa peinture s'adresse aux hommes. Et elle s'adresse à nous d'abord. Et c'est là, je pense, où il y avait une grande douleur. C'est qu'il était seul et qu'en fait, sa peinture s'adressait à l'humanité entière. Et lorsqu'il y a le manifeste de l'homme témoin, c'est donc en 48, en 49, il y a un critique qui s'appelle Jean Bourret, qui va contre justement cette abstraction qui commence à s'imposer et qui a vraiment une brutalité et deux factions qui sont assez rivales, l'abstraction, la figuration, et de voir la disparition de la figure humaine est un gros handicap pour un certain nombre de critiques qui défendent la peinture, on va dire, dans la grande tradition de la peinture où l'homme a sa présence. Donc, l'homme témoin, Bernard Buffet va être invité. Il y a eu deux manifestes, deux expositions, et Bernard Buffet fait partie de la deuxième exposition. Il est aux côtés de Robérolle, et donc ça, je crois que c'est assez significatif. Et il est parmi les jeunes artistes qui partent sur ce chemin de la figuration et auquel tout un public fait confiance. Bernard Buffet va très vite se retrouver seul, encore une fois. Et sa place dans l'histoire de la peinture, elle est évidente, elle est présente et en même temps, elle est discrète, elle est effacée. C'est-à-dire que le paradoxe avec Bernard Buffet, c'est qu'il est très vite donc célèbre. Il a un marchand, donc Monsieur Maurice Garnier, qui va s'occuper de lui pendant plus de 50 ans. Mais ça a commencé avec Emmanuel David, avec David et Garnier. Et puis ensuite, Maurice Garnier, qui est seul et qui va pendant 50 ans lui être extrêmement fidèle en défendant uniquement sa peinture et qui va progressivement délaisser d'ailleurs ses confrères pour ne s'occuper que de Bernard Buffet. Alors ce que je voulais dire, c'est que Bernard Buffet, c'était le grand espoir de la peinture française dans les années 50. En 1955, il y a une enquête qui est faite par Connaissance des Arts et Bernard Buffet, qui est le plus jeune, arrive dans les 10 noms qui sont proposés par les critiques. Et il est avec les plus grands noms, que ce soit Matisse, Picasso, Chagall. Et Buffet, lui, est là et c'est le plus jeune peintre. Donc, on se dit que c'est l'avenir de la peinture figurative, c'est Bernard Buffet. Et très vite, il va y avoir une espèce de déviation. On va de plus en plus parler de lui et en même temps, on va de plus en plus le décrier. Il va y avoir un clivage entre sa célébrité avec les honneurs qui lui sont rendus parce que il va aussi avoir une grande exposition rétrospective en 1958 à la Galerie Charpentier, qui est la grande galerie du Faubourg Saint-Honoré dirigée par Raymond d'Assinta. Et c'est une galerie qui est essentiellement consacré à la peinture figurative. Donc, vous voyez, il y a toujours cette espèce d'ajustement entre la célébrité et le refus de reconnaître que nous sommes là devant un grand peintre.
Bernard Buffet a-t-il eu des disciples ou des personnes qui se sont directement inspirées de lui ?
Non. Non, parce que il est lui-même, il y a trop d'exigences et dans cette exigence de la peinture, je dirais, il ne pouvait pas enseigner, donc il ne pouvait pas être professeur. Il n'avait pas d'atelier où il y avait de jeunes peintres qui seraient venus apprendre auprès de lui ce qu'il ne pouvait pas leur apprendre. Parce que c'était toute une expérience qu'il avait en lui. Lui avait appris à dessiner, mais ce qu'il était lui en tant que peintre, personne n'avait pu le lui apprendre. Ce n'était pas son professeur de dessin, ni Narbonne, qui lui avait donné, on va dire, le génie. Donc, il n'y avait pas de transmission possible et il est seul et il n'enseigne pas, il n'en a sûrement pas envie et il n'y a pas de disciple, il n'y a personne. C'est une figure qui va prendre vraiment, je crois, tout à fait sa place dans un paysage de la peinture qui ne peut plus maintenant faire semblant d'ignorer que Bernard Buffet est un grand peintre. Bernard Buffet est mort tragiquement en 1999. C'est vrai que c'est une mort tragique, voulue, acceptée. Bernard Buffet s'est suicidé et les mois qui ont précédé ce geste, qui correspond d'ailleurs à un geste de samouraï et qui finalement donne un point final à toute cette vie qui était consacrée à la peinture. Et quand il a compris que la peinture était menacée et qu'elle était menacée tout simplement parce que son corps n'allait plus pouvoir répondre à son acte de peindre, il y a eu donc cette grande conscience d'un avenir qui ne pouvait plus être envisageable et envisagé à partir du moment où il pourrait se faire sans la peinture. Et quand j'évoquais tout à l'heure ce don total à un art dans lequel il s'accomplit, il se réalise pleinement, on comprend très bien que ce geste est au contraire un geste d'une immense noblesse. Et Bernard Buffet, qui avait été plusieurs fois au Japon, je pense, pouvait être dans cette espèce de relation à la mort. Et donc, il part en nous laissant une série de tableaux sur la mort, précisément. Et donc, ces tableaux seront présentés l'année suivante, en 2000, par Maurice Garnier. Et en 2001, donc, Maurice Garnier décide de présenter annuellement, sur une période qui couvre à peu près 7-8 années du travail de Bernard Buffet, donc en reprenant chronologiquement son œuvre, décide de montrer les tableaux qu'il réserve et qu'il a sélectionnés au cours des années pour figurer dans ce musée Bernard Buffet.
Thank you.
Dans la galerie Maurice Garnier, située au 6 avenue de Matignon à Paris, nous avons ensuite parcouru, toujours aux côtés de Lydia Rambourg, l'exposition en cours. Ce sont les années 1977-1984 de la peinture de Bernard Buffet. Et dans ces années figure une série intitulée « L'enfer de Dante ». Voici l'un de ces tableaux dont vous verrez une photographie sur notre site, commentée par Lydia Rambourg.
Donc, nous sommes là dans ces années 74, 80, 82, et nous sommes devant une toile importante, de par ses dimensions. Bernard Buffet est aussi un peintre qui aime s'affronter à l'espace. Et ça, c'est le lien qu'il a également avec la grande peinture. Quand il veut renouer avec la grande peinture d'histoire, eh bien, il peint sur des tableaux qui font plusieurs mètres de long et généralement 3 mètres de haut. Et il renoue avec ces grandes scènes épiques de David ou de Jéricho, comme le radeau de la Méduse. Ça peut être aussi, bien sûr, les grands exemples de Courbet, parce que c'est un de ces peintres qu'il affectionne particulièrement, et notamment pour le côté pictural. La matière de Courbet le préoccupe beaucoup. Il aime cette façon de travailler la couleur en profondeur et sa palette aussi dans les terres. Alors, la toile devant laquelle nous nous trouvons fait partie d'une série sur l'enfer de Dante et Virgile. Et donc, nous sommes avec des personnages qui sont grandeur nature, dans un paysage de banquise, un paysage polaire. Il y a des sortes d'icebergs qui jaillissent d'une mer glacée dans laquelle sont enterrer en quelque sorte des personnages qui sont extrêmement grimaçants, avec les yeux exorbités, les dents tressaillantes. Ils sont nus et ce sont des pêcheurs, mais des pêcheurs qui ont commis des crimes. C'est leur condamnation d'être pris par les glaces. Et Dante et Virgile arrivent dans ce paysage et il y a ces deux personnages qui sont comme des figures du théâtre grec, qui sont hiératiques, qui sont immobiles par le saisissement qui est le leur de voir une telle souffrance, même si cette souffrance est celle qui est imposée à des criminels, alors que justement les êtres humains qui ont commis ces péchés sont dans une exaspération. Et là, il y a une très très grande violence. Alors, on va s'approcher un petit peu, parce que quand nous sommes avec un peu de recul, on voit effectivement une peinture qui se lit parfaitement, parce qu'il y a aussi un élément qui est constant chez Bernard Buffet, c'est qu'il y a la lisibilité de la peinture. C'est une peinture toujours extrêmement lisible. Et puis, il y a la peinture, c'est-à-dire toute cette sève qui nourrit la pâte et qui fait que la peinture n'est pas une image immobile et statique. Vous comprenez? Alors, c'est là où effectivement on voit comment Bernard Buffet dessine en cernant d'une façon très précise, comme pour une gravure. Le trait est vraiment dessiné sans repentir. Il n'y a pas du tout d'hésitation, comme pour la gravure. Et il y a des épaisseurs que l'on voit très bien apparaître. Et quand vous regardez, si vous isolez un morceau de ce tableau, par exemple, vous pouvez tout à fait imaginer que nous sommes pas très loin de la façon de peindre justement de Courbet ou de Fransals ou de Rembrandt, parce que il y a cette richesse de la matière qui est le travail du peintre et qui est, je dirais, son mystère, mais qui fait que quand le spectateur regarde, on n'a pas à se poser toutes ces questions. On a une émotion, c'est-à-dire que tout le côté métier, le côté cuisine de la peinture disparaît pour laisser uniquement monter une sensibilité. Donc, il va y avoir, face à une toile comme celle-ci, qui est très violente, très très violente, il va y avoir un refus, parce qu'il y a des gens qui vont penser que l'image est trop violente, mais nous sommes habitués à voir des images très violentes à la télévision, au cinéma. Et ce sont des images, je veux dire, qui ont une certaine banalité. Elles sont violentes parce qu'elles nous montrent, mais elles sont banales parce que ce ne sont jamais que des images d'un film qui se déroule. Là, on est devant quelque chose qui gêne et qui nous met très mal à l'aise. Et c'est au-delà de l'image. Je crois que c'est le fait qu'on est face à un être qui a un moyen de s'exprimer qui passe par la couleur, par la matière, par des pigments, et que quand on est devant une toile comme celle-ci, on ne peut être effectivement que saisi parce que on se rapproche vraiment d'un sentiment de nature et ça va très loin dans ce qui nous agite profondément au fond de nous et de ce que l'on ne peut pas avouer et expliquer par les mots. Et là, la peinture, quand nous lisons Dante, les vers font naître en nous des images. Et là, Buffet se fait l'interprète, mais fait une transposition par rapport à une versification. Il nous met devant quelque chose qui est vivant. Et vivant, c'est la peinture. Parce que la peinture est quand même avant tout vivante. La musique, c'est des sons, c'est vivant. Eh bien, la peinture, c'est vivant aussi parce que nous sommes avec des matériaux organiques et que Buffet maîtrise ça avec une insolence parce que c'est terriblement insolent de peindre des personnages presque grandeur nature, encore une fois, comme le faisaient les grands peintres, que ce soit les grands classiques du XVIIe, que les peintres du XIXe, les peintres classiques et romantiques. Il y a chez Bernard Buffet donc cette grande tradition de la peinture. Il en est vraiment l'héritier. Et je pense que aujourd'hui, je ne vois pas de sa génération un peintre qui serait l'héritier de notre grande peinture française, qui remonte au XVIIe siècle. C'est-à-dire, je pense à des peintres comme Philippe de Champaigne, qui était un peintre que Bernard Buffet admirait beaucoup. Eh bien, il y a une grande exposition en ce moment au Musée de Lille, qui fait le point sur cette œuvre magistrale. Eh bien, nous sommes effectivement dans l'équilibre. Nous sommes avec cette même conscience d'une toile qu'il faut affronter en deux dimensions, avec des moyens qui sont ceux de la perspective depuis la Renaissance, mais la peinture au service de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a là un peintre qui va plus loin que la simple représentation d'une image. Philippe de Champaigne, quand il fait ses grands portraits de notables et puis surtout ses portraits de religieuses de Port-Royal, eh bien, nous sommes devant une peinture universelle et intemporelle. Et je pense que c'est là aussi la grande qualité et la spécificité de Bernard Buffet qu'il ne partage avec aucun autre de ses contemporains, c'est d'être vraiment ce peintre qui nous donne à voir des scènes qui sont complètement intemporelles et universelles, qui appartiennent à l'humanité. Bernard Buffet dit « Ce n'est pas gai la peinture, d'ailleurs ce n'est pas fait pour rire ». Donc ce n'est pas le sujet à la limite qui fait qu'on est un grand peintre ou un peintre moyen, c'est qu'on s'engage complètement et qu'on ne sait pas jusqu'où vous pouvez aller. Donc il y a une espèce d'ivresse et puis en même temps une grande, grande solidité dans la façon dont on conduit son travail. Parce qu'il y a ça, il y a être en possession d'un métier. Et qu'est-ce qu'on fait avec son métier? Et Bernard Buffet, lui, sait ce qu'il va en faire. À 20 ans, il sait ce qu'il va faire. Avec ce talent qu'il a, ce dessin magistral, insolent, qui lui fait dessiner, et qui déjà est un dessin qui déstabilise, parce que c'est un dessin presque de médecin légiste. C'est-à-dire qu'il dissèque. Il dissèque tout ce qu'il voit. Donc ça passe par le dessin aigu. Et puis après, il y a la matière qui arrive. Et puis ce travail de la pâte qu'on triture, qu'on malaxe, qu'on violente, qu'on caresse, et avec laquelle il faut faire quelque chose. Il faut faire que la peinture vive.
Lydia Rambeau, vous parliez des natures mortes de Bernard Buffet, qui en a peint un certain nombre. Et pourtant, c'est vrai que ces natures, elles n'ont pas l'air mortes, en fait. Elles ont l'air vivantes, ou alors tuer.
Alors on dit nature morte, en fait, il faudrait plutôt recourir au terme des anglo-saxons qui parlent de nature silencieuse, et je crois que c'est ça en fait. Ce sont des natures silencieuses où les objets ont leur propre histoire, et objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Je crois qu'en fait c'est tout à fait ça, c'est que Bernard Buffet essaye de réunir des objets qui n'ont peut-être pas toujours de relation entre eux, mais il en fait une composition, et il est encore dans cette grande tradition de la peinture française, c'est-à-dire qu'un peintre comme Beaugain, par exemple, qu'il aimait aussi beaucoup, il regardait comment tout ça tenait, parce que ce qu'il faut, c'est que ça tienne sur une surface qui est plane. Alors comment on fait tenir des objets qui ont trois dimensions, et comment faire que, au-delà de la virtuosité qui a été celle des peintres du XVIIe et du XVIIIe, faire ce qu'a réussi Chardin, c'est-à-dire faire qu'il y ait de la lumière qui passe, qu'il y ait des passages entre les objets, entre les formes, et que tout cela fasse que, à un moment donné, ben, ça tient, c'est dans l'équilibre. Et là, encore une fois, Bernard Buffet sait composer. D'ailleurs, intuitivement, il avait recours au nombre d'or, c'est-à-dire que tout trouvait sa place. Il y avait un équilibre parfait. Et donc, ces grandes diagonales, ces grandes verticales, horizontales, tout un jeu de lignes qui contribue à installer la composition, ça, il maîtrise magnifiquement, mais ça ne suffit pas. Sinon, ça fait simplement une chose qui est bien, qu'on peut identifier, mais encore une fois, la peinture, c'est pas ça. Il faut que ça aille plus loin. Et ça, il le sait depuis toujours. Donc, ça va effectivement plus loin. Alors là, nous avons quatre portraits de voitures. Bernard Buffet était très amateur de belles voitures. Et là, nous avons des voitures anciennes. Je suis pas une grande spécialiste des voitures, mais enfin, des Bugatti, des Delage. Et elles sont dessinées avec énormément de précision. Alors, tout à l'heure, nous avons évoqué, est-ce qu'il y avait une évolution et quelle était la place de Bernard Buffet? Bon, la place, il a sa place. Mais ce qu'il faudrait qu'on arrive maintenant bien à comprendre et surtout à en être persuadé, que Bernard Buffet n'est pas uniquement un peintre qui, effectivement, toute sa vie aurait fait, comme disent les méchantes langues, le même tableau. Il n'a jamais fait le même tableau, parce que d'abord, ce n'est jamais peint de la même façon, mais il y a une grande unité, ce qui n'est pas pareil. Donc il y a son écriture, effectivement. Le sujet est cerné avec beaucoup de vigueur. Il y a un trait plus ou moins épais, qui s'épaissit d'ailleurs avec les années, qui devient plus large, et qui silhouette vraiment, qui installe le sujet dans le tableau. Mais regardez là comment c'est peint. Par rapport à la toile que nous venons de voir, où il y a des épaisseurs, où il y a un travail de matière, là au contraire, c'est presque peint en aplat, et c'est extrêmement lisse. Eh bien, nous avons là, devant nous, des toiles que ne pourraient pas renier certains artistes du pop art. Donc, c'est là aussi cette fascination que Bernard Buffet exerce sur les grands amateurs de peinture, c'est que il est à la fois avec des recours qui évoquent d'autres courants de peinture, que ce soit les abstraits lyriques, que ce soit les expressionnistes, que ce soit les gens qui se sont tournés vers le pop art, ou même les nouveaux réalistes qui empruntaient dans la vie quotidienne leur sujet. Eh bien là, c'est un sujet de la vie quotidienne, ça peut pas être plus contemporain, une voiture, et il en fait un tableau, il en fait une peinture. Donc c'est quand même assez gonflé aussi. Et il se moque bien de savoir si ça plaira, ça sera apprécié ou pas. C'est son chemin, il le continue, et donc il va au plus loin de ce qu'il peut.
Là, c'était dans le cadre d'une exposition thématique en 1984, sur le thématique comme ça des voitures. Oui. Et à partir de 1951, Bernard Buffet a travaillé par thématique qui était exposée chaque année à la galerie Maurice Garnier.
Oui.
C'est assez original comme démarche.
Alors je crois que c'est aussi une des caractéristiques de Bernard Buffet, c'est que il partage ça d'ailleurs avec Picasso, c'est que il va jusqu'au bout d'un thème et il lui tord le cou en quelque sorte. Quand il en a extrait tout ce qu'il pouvait en extraire, il passe à autre chose. Alors c'est vrai que c'est en relation avec des voyages, avec les siens. Il y a une année où ce sont les portraits d'Annabelle, il va y avoir les châteaux de la Loire, il va y avoir Pékin, il va y avoir le Japon, il va y avoir la corrida, il va y avoir les sumos, New York, les églises de France. Donc toutes sortes de thèmes extrêmement diversifiés, ce qui prouve qu'il y a une grande curiosité aussi en lui pour que la peinture, elle est disponible pour tous les sujets. Il n'y a pas un sujet qui soit meilleur qu'un autre. C'est la peinture qui dicte sa loi. Donc finalement, avec elle, tout passe avec elle. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est que c'est un homme qui a toujours été indépendant et qui n'a peint que ce qu'il voulait peindre. Quand il choisit un sujet, il sait que c'est pour approfondir quelque chose qu'il sent en lui et il pense que ça va passer mieux avec ce sujet qu'avec un autre. Et c'est vrai que cette complicité qu'il y a eu avec Maurice Garnier et qui continue post-mortem, mais qui a été pendant 50 ans, son regard... Il y avait le regard d'Annabelle et il y avait le regard de Maurice Garnier. Et je trouve que ça, c'est absolument unique dans toute l'histoire. Alors là, vraiment dans toute l'histoire de la peinture, pas seulement du XXe siècle, mais je pense l'histoire générale de la peinture depuis la Renaissance. C'est absolument unique qu'un marchand se consacre à l'œuvre d'un peintre et qu'il le défende et qu'il lui fasse une exposition chaque année sans lui imposer non plus de directives. C'est très important. Donc, la liberté, l'indépendance. Et je pense que Bernard Buffet ne pouvait que peindre dans cette indépendance. Encore une fois, c'est un être extrêmement anxieux, qui est très secret, très, très tourné intérieurement, introverti. C'était quelqu'un avec lequel on avait peu de contact. Moi-même, je l'ai rencontré, je lui ai très peu parlé. Je n'avais pas d'échange parce que c'était quelqu'un qui se protégeait aussi, je pense, et qui était aussi blessé. Je pense qu'il y avait de la blessure en lui, de voir comment il y avait ce rejet d'une peinture qui, pour lui, était sa vie. Donc, ne pas aimer sa peinture, c'était ne pas l'aimer non plus lui. Alors, il faut quand même rappeler que ce paradoxe que nous évoquions au début de notre entretien, ce paradoxe, donc, c'est la célébrité, c'est être élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1974. C'est le plus jeune académicien jamais élu, il a 45 ans, vous imaginez. Il arrive dans une académie où il n'y a que des vieux monsieur et il occupe le fauteuil d'un peintre animalier, Jouve, et voilà Bernard Buffet investi quand même des plus grands honneurs et qui a très vite aussi des rétrospectives à l'étranger, qui va avoir un musée au Japon. Et là, au Japon, il est fêté. C'est un homme qui est vraiment mais honoré comme un dieu. C'est un trésor vivant. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez significatif, c'est que le seul musée existant de Bernard Buffet se trouve au Japon. Donc c'est quand même un collectionneur qui découvre la peinture de Bernard Buffet, qui en est absolument fou, et qui vient tous les ans chez Bernard Buffet, à l'atelier, et qui achète. Et à un moment donné, bon, ça va faire un musée. Et le musée est inauguré en 1973, au pied du mont Fuji, une petite bourgade, enfin une petite ville qui s'appelle Surugadera. Et en 73, Buffet a son musée là. Et alors il faut savoir que... c'est là où il repose, parce que ses cendres ont été dispersées à cet endroit. Alors, je trouve que là aussi, il y a une symbolique, parce que le choix de Bernard Buffet de dire, voilà, j'arrête, je vais devoir poser les pinceaux, mais c'est moi qui décide que je pose vraiment les pinceaux, c'est pas le destin qui décide pour moi. Et puis, il est parti rejoindre les tableaux de quelqu'un qu'il avait beaucoup aimé, beaucoup défendu. Je trouve que c'est un côté, bien sûr, un peu littéraire, mais tout de même, je trouve que rien n'est fortuit dans la grande aventure que Bernard Buffet a entreprise.
En 1956, Jean Giono a écrit ceci sur Bernard Buffet. J'avoue que je suis quelquefois comme un personnage de Bernard Buffet. il a surpris l'instant où l'esprit ne se fait plus chair, où la passion dévore tout, où il n'y a plus d'attitude, l'instant où le personnage n'est plus en représentation, ce que d'aucuns appellent « triste », mais qui est l'expression d'une vérité pure et simple, d'un fait, d'un état d'âme. Le chasseur d'Altamira qui dessinait ses bisons, sans doute pour les convaincre de venir s'abattre à ses pieds sous ses flèches, n'y mettrait pas plus d'ésotérisme. Imaginez les personnages de Bernard Buffet, ses lampes, ses bouquets, ses couteaux et ses fourchettes, ses chaises et ses lits de fer peints sur les murs de nos cavernes, et ils le sont, dans 20 000 ans, on jugera leur rigueur d'un art inimitable. Jean Cocteau, de l'Académie française, a écrit ceci sur Bernard Buffet en 1957. Médiéval, c'est le terme qui s'impose si je cherche à résumer d'un mot l'œuvre de Bernard Buffet. Sa chance semble venir d'avoir touché la corde d'un des pendus de Villon. L'allongement des formes prend chez lui une signification différente de celle, Modigliani en tête, qui nous arrive des figures du Gréco. Je ne songe pas aux foudres, aux mandragores, aux linges tortueux du Gréco, mais aux giboulées à l'envers des lances d'Uccello. Un drôle d'oiseau entre nous, capable de fraterniser un jour au Louvre avec notre peintre, tellement dur et tendre qu'il combine en sa personne les longues dames des tapisseries à la licorne et les chevaliers considérables d'un tournoi. Tel est le contraste en lui de ce cruel sentimentalisme qu'on ne s'étonnerait pas de voir des couples enlacés, le jeune homme poussant une bicyclette de sa main, traverser les allées vides qu'il aime ou que fleurissent des églantines sur les ronces en fil de fer barbelé dont il protège sa haute et nonchalante solitude. Ne vous y fiez pas, une nature morte de Buffet n'est morte que d'un œil et prête à mordre. Les ustensiles des arts ménagers de Vienne, entre ses mains de minces bourreaux pâles vêtus de rouge, des instruments de torture aptes à faire parler coûte que coûte le silence, prendrait-il l'apparence d'une nappe, d'une chaise, d'un peigne, d'une raie ou d'une tête de veau? À nul autre, je ne saurais mieux appliquer cette devise « Ne mélangez pas les torchons et les serviettes, car je suis un torchon ». Loin du bonnet d'âne en lingerie roide des tables élégantes, Buffet tortille adroitement un torchon jusqu'à en faire une mitre d'évêque espagnol à genoux devant le calvaire des poteaux télégraphiques de Tolède, en mettant à l'index toute beauté suspecte de quelque charme. Médiéval, Buffet laisse derrière son passage une piste funèbre dont les joutes ont crevé l'œil d'un roi de France. Mais là où je l'estime incomparable, c'est lorsqu'il porte ce vide à son compte, relègue son arsenal de piques dans les coulisses et règne, comme Louis II de Bavière, dans la loge d'un théâtre vide avec pour tout décor soit une plage et sa mer plate, soit un chantier dont les grues aux coups antidiluviens hurlent par l'organe des sirènes d'usine.
Thank you.
C'est la fin de cette émission consacrée à Bernard Buffet. Vous pouvez la télécharger ou la réécouter autant de fois que vous le voudrez. Vous pouvez également écouter d'autres émissions en compagnie de Lydia Rambourg. Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Maurice Garnier pour nous avoir ouvert les portes de la galerie qui porte son nom et de nous avoir réservé le plus chaleureux accueil. Bonne journée ou bonne soirée à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écoutés.